Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le sommet des deux rives à Marseille a d'abord plaidé pour un multilatéralisme renouvelé. Pour cela, il a impliqué la société civile des 10 pays concernés. Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon de mettre en œuvre la coopération régionale, faire émerger des initiatives locales, de préférence partagées par plusieurs villes, régions ou pays, afin de les faire essaimer dans tout le bassin méditerranéen occidental. Nous en parlons avec la chef de file tunisienne des 100 personnalités qualifiées, mais aussi avec Hassen Ould Lebat, membre de la société civile mauritanienne, et Nourdine Benbraham, membre de la société civile algérienne. Le sommet des deux rives à Marseille, une émission que vous pourrez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou podcaster sur notre appli Pure Radio. À l'ouverture du sommet des deux rives, la présidente de l'agglomération Aix-Marseille a d'emblée mis l'accent sur la société civile. Martine Vassal a insisté sur la qualité des débats et des projets présentés.
Plus de 200 projets de taille très diverses ont été proposés. Ces projets ont couvert une grande variété de sujets ainsi que les thématiques choisies. Les retours que nous avons relevés des participants ont été très positifs dans leur ensemble, tant des porteurs de projets que des partenaires que nous tenons particulièrement à remercier pour leur large engagement. La coordination a parfois été délicate, principalement en raison du nombre important des délégations par pays et des intervenants. Mais ça n'a en aucune manière freiné l'enthousiasme, le travail, la bonne volonté des uns et des autres. Mesdames et messieurs, la société civile méditerranéenne a particulièrement apprécié cette initiative. La réduction du gap économique entre les deux rives passe par la consolidation d'une identité méditerranéenne commune, une identité qui ne peut être bâtie sans écoute des peuples. Notre rôle consiste à devenir des catalyseurs d'initiatives et de projets émanant de la société civile de la Méditerranée pour un plus fort maillage entre les peuples des deux rives. Nous voulons transformer cette mer intérieure en espace de vie, de sagesse énergétique, d'économie innovante, solidaire et compétitive et de paix partagée.
Et justement, de grands axes de développement ont-ils émergé des différents forums régionaux préparatoires qui se sont tenus au printemps? Voici ce qu'en pense Wydad Bouchamaoui, chef de la délégation tunisienne et présidente du comité de pilotage.
Les différents forums ont été des forums préparatoires pour le forum de Tunis, parce qu'à Tunis, il y a eu restitution des projets, et dans les forums thématiques, il y a eu présentation, discussion, et on a essayé vraiment de faire un maillage entre projets, en essayant de faire un regroupement de certains projets qui ont une portée plus qu'une région, et voir un petit peu comment il y aura cette harmonie en incluant la technologie, l'innovation, le côté urbain, le côté éducation, formation, jeunesse, etc. Et ça a été un échange très constructif, ce qui nous a permis, nous, à Tunis, de pouvoir mieux resituer les projets, mieux les fédérer, les projets. Il y a eu validation de 14 projets par les politiciens et les payeurs de fonds. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du concret pour vraiment que ce projet, ce sommet ait un sens et qu'il soit aussi viable.
Est-ce que les situations politiques locales ont influé sur le travail des membres de la société civile, aussi bien par exemple en Algérie que dans d'autres pays?
En aucune manière. D'ailleurs, dans tous les forums, il y avait des représentants des 10 pays. D'ailleurs, ce que nous avons abordé tout le long des forums, c'était vraiment le côté économique, sociale, jeunesse. On n'a pas parlé de la politique. Hein. Au contraire, j'ai découvert des jeunes, surtout dans ces pays-là où, qui sont en mouvement aujourd'hui. J'ai découvert des jeunes qui sont vraiment très ambitieux, qui veulent changer et qui veulent apprendre et qui ont aussi à donner. Ça, c'est important.
Alors justement, est-ce que toutes les délégations de la société civile ont vraiment joué le jeu? Parce que par exemple, on voit des disparités. La délégation algérienne a des personnalités déjà très installées, alors que par exemple, la délégation mauritanienne a pratiquement que des jeunes.
Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a répondu présent, tout le monde a donné des propositions. Au contraire, on a eu une avalanche de projets. Parfois, on se dit, mais par où commencer? C'est comme si vraiment on a ouvert la grande porte pour dire à tous, vous avez une opportunité, vous allez être écoutés. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est de penser aux idées. Moi, je suis vraiment agréablement surprise. Bien sûr, il y a eu certaines tensions, mais c'est tout à fait correct. Voilà.
Mais le fait désormais de donner une large place à la société civile, est-ce que c'est envisager le multilatéralisme sous un autre angle que ce que l'on faisait jusqu'à présent?
On a donné la parole à la société civile. Et ça, c'est une première. La société civile a la parole pour proposer des projets qui ont un impact sur la région et le pays lui-même. Donc, on n'a pas laissé que les techniciens ou les politiciens faire donc leurs propositions. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, cette implication de la société civile, ça permet de réduire ce gap entre les dirigeants politiques et le peuple. Donc, pour dire, voilà, nous, on est là, mais vous, vous êtes aussi présent. Et vous êtes, c'est votre droit de participer, d'agir et d'entreprendre et de proposer. Donc, vous n'êtes pas la majorité silencieuse. Au contraire, vous êtes une majorité qui a sa place dans ce monde.
Alors, il y a eu 272 projets, donc une profusion de projets, vous l'avez dit. Vous n'en avez retenu que 14. Pourquoi finalement aussi peu?
Non, c'est avec les bailleurs de fonds qu'ils ont retenu 14 hier, avec les ministres. Mais je le dis d'une manière très claire. Tous les projets que nous avons reçus seront sur une plateforme. La plateforme a été mise en place en Tunisie par des Tunisiens où il y aura tous les projets parce qu'on a demandé que, bien sûr, l'autorisation pour mettre les porteurs de projets. Donc on a tout gardé, rien ne se perd, tout reste sur la plateforme. Et il fallait combiner certains projets, essayer de les visionner, essayer d'avoir cet amorçage méditerranéen, savoir ce maillage méditerranéen, donc afin de réduire en Tunisie. Ce que nous avons fait en Tunisie sont des grandes umbrellas où il y a plusieurs projets. Et puis, à Marseille, la sélection a été faite, bien sûr, en présence des bailleurs de fonds. Pour eux, ils se disent, voilà, c'est le projet qui nous intéresse. Parce qu'il ne suffit pas que nous, on dit ce projet est bon, mais il faut trouver les fonds nécessaires. On ne peut pas obliger les bailleurs de fonds à financer tel ou tel projet. Mais quand même, moi, je pense que c'est pas mal. Et 14 projets ne sont pas un de ce projet. Parce que j'ai vu, ce sont des projets où il y a d'autres petits projets qui sont à l'intérieur. Donc, franchement, on n'est pas trop loin du compte, mais ça restera toujours un premier pas. Et puis, ça sera une première expérience. Et on aura toujours à travailler le reste.
Et ces projets, ils concernent toujours plusieurs pays qui vont collaborer?
Ah oui, au minimum deux pays, mais la majorité de projets, ça dépasse deux pays. C'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas d'avoir un sommet en forum national. C'est un sommet entre deux rives où il y a ce contact. Ça pourrait être avec la rive nord et sud ou sur une même rive, mais la majorité, il y a cet amorçage entre les deux rives. C'est ça ce qui est extraordinaire.
Et ce qui est choisi, c'est plutôt les nouvelles technologies, c'est plutôt l'environnement, des choses connues?
Vous savez, notre société civile, d'une manière générale, et notre groupe est très ambitieux. On n'avait pas de limites, on avait des thématiques. C'était tout à fait normal parce que sinon, on peut se disperser. Donc, il y avait 5 thématiques. On a essayé d'être plus ou moins conforme à ces thématiques. Mais ça englobe et l'environnement, et l'éducation, la formation, la jeunesse, la mobilité, le patrimoine, le handmade, l'artisanat, l'entrepreneuriat, les plateformes aussi pour tout ce qui est échange, tout ce qui est mobilité des jeunes. Donc, franchement, ça englobe. Comme si quelqu'un a vraiment une envie, un souci, il veut dire, voilà, je veux combler ça par un projet.
Le fait de se retrouver 6 mois après, c'est une bonne idée pour vous?
Oui, c'est important de se fixer des deadlines et de se dire voilà, qu'on a un objectif, il faut y travailler. Sinon, on va se laisser faire. Donc, c'est important, on se dit voilà, on a d'ici 6 mois, il faut vraiment présenter et finaliser quelques projets.
Merci, Ouided Bouchamaoui. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise tunisienne, prix Nobel de la paix en 2015, présidente du comité de pilotage du sommet des deux rives.
Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous.
Orient Hebdo sur RFI.
Pour Nourdine Benbraham, membre de la délégation algérienne et responsable d'une association des droits de l'homme, ce sommet est un espoir pour les pays du Sud car si les points communs sont nombreux avec le Nord, les disparités sont légion.
Effectivement, il y a des points communs, mais il y a également des disparités. Les niveaux d'éducation, l'enseignement, les opportunités, l'emploi, toutes ces questions ne donnent pas un topo équilibré par rapport à ce qui se passe au nord et ce qui se passe au sud. C'est lié à des facteurs différents en matière de développement, en matière de placement géographique des pays et des évaluations différentes sur les différentes politiques qui ont fait de la rive sud des pays en voie de développement. Et avec bien sûr une évolution assez importante en démographie, assez importante par rapport à l'offre qui existe, ça vous donne un clivage différent entre le sud et le Nord. Mais également, de l'autre côté, pour être très optimiste, il y a aujourd'hui, avec les technologies de communication qui existent, avec les réseaux sociaux, cet énorme échange culturel, cette énorme interactivité très positive qui peut former un espace commun à travers les deux rives. En matière d'appartenance, tout d'abord de la culture dans cette région et également la réalité et le futur. Et là, je me parle sur les possibilités que la société civile a fait dans son plaidoyer à travers la déclaration de Tunis et en particulier l'atelier qui a travaillé sur la mobilité, l'éducation et la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui à la jeunesse?
Alors,
quelles sont les alternatives qu'on peut proposer aujourd'hui à la jeunesse? Avec tout ce diagnostic que nous avons donné entre les disparités qui existent. Tout d'abord, il y a l'emploi. C'est un élément très important et l'emploi accompagné par des supports de formation, d'éducation pour justement préparer des réponses et des alternatives. Les jeunes sont dans des cycles de formation qui terminent par des licences et des diplômes supérieurs au niveau universitaire, mais quand ils terminent leur cursus de formation, ils se retrouvent au chômage. Quelles sont maintenant les solutions? Je pense que un des projets, c'était la création de banques de données et d'échanges et de présentation des CV des jeunes pour créer cette collectivité entre le secteur public, secteur privé, secteur de l'emploi. Et les jeunes donnera également des plateformes d'échange très rapides pour trouver de l'emploi également. Certainement que le retour actuellement, qui est très attendu, c'est les dynamiques de l'entreprise jeune qui est quelque part importante, mais à travers ce lien qu'on fait avec les pays du Nord, c'est très important de faire un accompagnement. Au lieu de penser toujours que le Sud est un grand marché de produits et de commercialiser des différents services, il faudra changer cette vision et donner un espace et un accompagnement et un renforcement d'un tissu économique producteur de richesses et qui donnera des réponses sans s'aventurer à travers de l'immigration dans des embarcations de fortune dans la Méditerranée ou de trouver des aventures multiples à cette énergie assez importante qui est la jeunesse.
Mais justement, est-ce que l'on peut envisager des coopérations locales ou régionales, nord-sud, sur des projets communs? Est-ce qu'il y a de part et d'autre, d'une part la volonté et puis aussi les technologies disponibles pour ça?
La volonté, on la voit aujourd'hui, c'est qu'il y a les représentants des gouvernements qui sont là. Et puis il y a la société civile qui vient avec un plaidoyer pour parler d'une politique concrète. C'est pas juste donner un rêve et le partager à travers les médias, mais réellement donner des alternatives et des réponses concrètes à la jeunesse. Et c'est pour cette raison que ce mixage entre politique gouvernementale et société civile donnera certainement dans les futurs temps, tout d'abord un très bon diagnostic de la réalité de ces deux régions, rive nord et rive sud, mais également à aller à mettre en place des mécanismes de financement justement pour ce tissu économique. Comment construire une entreprise concrète qui peut donner de l'emploi, sortir un peu de la théorie et de descendre réellement vers quelque chose de concret que les jeunes sont en train d'attendre. Je pense que c'est un des objectifs de cette réunion d'aujourd'hui, c'est comment mettre en place des mécanismes de suivi, d'évaluation, de financement et des réseaux, de partage d'informations, le partage de bonnes expériences, l'accompagnement et le renforcement, le transfert technologique. Toutes ces questions doivent être abordées par des petits projets qu'on est en train de parler sur les métiers, sur la culture. Donc il n'y a pas uniquement un seul angle que la réunion d'aujourd'hui est en train d'attaquer, mais également d'essayer de multiplier plusieurs angles de productivité de cette réunion, c'est-à-dire le côté culturel, le côté de la citoyenneté, la jeunesse, l'éducation, etc.
Est-ce que c'est justement ce qu'attend la jeunesse, notamment la jeunesse algérienne, qui est dans la rue depuis le 22 février? Est-ce que c'est, à côté de l'aspect politique des choses, est-ce que c'est cela ce dont on a parlé ici ou à ce sommet des deux rives que la jeunesse algérienne attend?
La jeunesse algérienne, elle a reflété à travers ces événements et cette manif pacifique, elle a reflété un sens de maturité très supérieur en matière de pratique démocratique. C'est magnifique de voir des millions de personnes dans la rue qui manifestent et que vous avez un partage de paix pacifique entre toutes les personnes et puis un plaidoyer, je dirais, très développé en matière de revendication pour instaurer des changements dans le pays. Ça, c'est extraordinaire en matière d'éveil démocratique ou de participation. Et également, de l'autre côté, l'accompagnement des autorités et des institutions en matière de préserver la paix, partager entre les choses qui ne se passent pas souvent dans d'autres pays de la région. Ça, c'est un élément très important et un acquis. Maintenant, les alternatives à venir dans ce processus, c'est certainement d'aller vers des élections libres, démocratiques, et qui ont des garanties, et qui seront certainement le produit d'un dialogue assez profond entre tous les acteurs, que ce soit la classe politique, l'opposition, la société civile, les médias, et que certainement que le Hirak donnera son feu vert par rapport à ses résultats. Je pense que c'est une expérience extraordinaire, jamais vue dans le passé du pays. Les rassurances que j'ai, c'est que les éléments forts de tout ce travail, c'est la jeunesse. Elle est éveillée, elle est cultivée, elle a toute cette volonté de vivre en paix et de développer et de voir les richesses de notre pays mixées avec une bonne gouvernance qui sera le produit de donner des réponses et des transformations dans le futur très positives pour le pays.
Merci Nourdine Ben Brahim.
Merci à vous pour l'invitation.
Rencontré également pendant le sommet, le Mauritanien Hassen Ould Lebat semble très motivé, comme d'ailleurs l'ensemble de sa délégation, emmenée par une jeune entrepreneuse de moins de 30 ans. Journaliste, initiateur des débats du Sahel, il tire un bilan positif de ce sommet.
La société civile mauritanienne est venue ici en force. On est venu avec un panel extrêmement bien équilibré, très jeune. Notre moyenne d'âge est très basse et surtout très équitable. Il y a 3 hommes et 7 femmes. Et surtout, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer parce que notre chef de file tout à l'heure, il était en train d'en parler avec le président Macron. Et quand il a dit dans 6 mois, il y a beaucoup de délégations qui ont proposé des rendez-vous. Et lui, il a insisté pour que ce soit en Afrique. Du coup, notre délégation a proposé que le prochain sommet soit organisé à Nouakchott. Et on a déjà l'accord de notre ministère des Affaires étrangères. Donc, on espère que la prochaine fois, ce sera chez nous.
Donc à Nouakchott qui est une capitale qui semble s'être beaucoup développée, notamment sur les nouvelles technologies, puisque dans la délégation, il y a plusieurs membres des nouvelles technologies.
Absolument, et on a proposé beaucoup de projets qui seront d'ailleurs en synergie avec d'autres projets de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la force de notre panel, c'est parce que nous, on n'a pas proposé des projets 100% mauritaniens, on a toujours cherché à avoir un projet de l'autre côté de la Méditerranée afin de travailler en synergie avec eux. Et c'est surtout une capitale qui s'est développée énormément ces dernières années, notamment au niveau des infrastructures. On a un nouveau palais des congrès, un nouvel aéroport et de nouvelles infrastructures hôtelières. Donc on pense qu'on est vraiment qualifié pour recevoir ce genre de sommet.
Mais est-ce que le pays se développe surtout dans sa capitale ou est-ce que, par exemple, les nouvelles technologies vont aussi dans les campagnes ?
Dans les grandes villes de Mauritanie, les nouvelles technologies se développent, mais surtout à Nouakchott, il y a beaucoup, beaucoup d'incubateurs, des jeunes comme Aïssa Talam, par exemple, que vous connaissez, qui préside la jeune chambre de commerce. Il y a beaucoup d'incubateurs qui viennent en aide aux jeunes des quartiers défavorisés afin de les aider à monter leurs propres entreprises. Et ces jeunes-là sont très, très, très inventifs et très innovants.
Mais justement, la jeunesse est très nombreuse en Mauritanie et dans d'autres pays de la région. L'enjeu, justement, peut-être de ce sommet, c'est de leur trouver des emplois et des débouchés pour leurs activités.
Absolument. Et c'est dans ce cadre qu'on souhaite organiser ce sommet parce qu'on souhaite attirer les investisseurs vers notre pays afin de trouver à ces jeunes des débouchés, afin de trouver, comme l'AFD, par exemple, des sources de financement parce qu'eux, ils ne manquent pas d'idées, mais souvent, ils ont des problèmes de financement.
Est-ce que le développement économique, par exemple, ou social, va de pair avec un développement politique?
Alors, c'est là toute la question. La Mauritanie, vous savez, vient de connaître une grande alternance. On a un président qui vient de finir ses 2 mandats. Ensuite, conformément à la Constitution, il ne s'est pas représenté pour un 3e mandat. On vient d'avoir une élection présidentielle très apaisée où un nouveau président vient d'être démocratiquement élu avec un score de 52,01%. Et là, on entame une nouvelle alternance politique d'une manière totalement pacifique, ce qui est plutôt rare dans cette zone. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que le nexus développement et sécurité vraiment prend tout son sens en Mauritanie parce qu'on est dans une zone entourée de foyers de tension et le développement est très important pour nous parce qu'on pense qu'avec le développement et avec l'éducation, on peut lutter contre les inégalités et surtout contre le terrorisme.
Alors justement, la coopération, vous en parlez, vous souhaitez coopérer avec d'autres pays de la région, plutôt les pays du Nord ou des voisins comme le Maroc, voire la Libye.
Alors, le dialogue 5+5 nous offre la possibilité de jouer dans le multilatéralisme parce qu'il y a les pays du Maghreb et il y a aussi les autres pays du bassin méditerranéen. Et donc, cette multilatéralité-là nous offre la possibilité d'exister parce que nous, vous savez que la Mauritanie est un pays locomotif dans la zone G5 Sahel. Il nous revient à l'initiative de créer cette organisation. Et également, le fait d'appartenir au dialogue 5+5 nous permet de rester connectés à la zone méditerranéenne, même si la Mauritanie ne fait pas partie des pays qui ont un accès à la Méditerranée, tout comme le Portugal d'ailleurs.
Donc vous êtes un pays leader dans cette région ?
Absolument, et c'est pour ça qu'on est là.
Merci. Prochain sommet, pour assurer le suivi des initiatives retenues, dans 6 mois, peut-être à Nouakchott, en Mauritanie. Ce nouveau numéro d'Orient Hebdo a été mis en onde et réalisé par Mathias Golshani, avec la collaboration de Boris Vichit pour les prises de son, Saada El-Jabri de Monte Carlo Doualia pour les contacts et Mélanie Mélodias pour l'organisation lors du sommet. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. On se retrouve avec plaisir samedi prochain, tout de suite, le journal.